Voilà, alors on va commencer l'année par la fin du roi Akab, ce mauvais, méchant roi qui, vous vous rappelez la fois dernière, il a donc Israël avait combattu contre le roi de Syrie, Ben-Hadad, et Dieu avait donné la victoire à Israël, et malheureusement Akab avait laissé partir son ennemi, Ben-Hadad, que Dieu avait voué à l'interdit. Et donc Akab avait été réprimandé pour cela par un prophète. Puis ensuite, Akab a convoité la vigne de Naboth, et avec Jézabel, sa femme, donc ils ont tué Naboth pour récupérer la vigne. Et Akab avait été visité par Élie, qui lui avait annoncé son jugement pour avoir fait cela. Et le jugement, et là, suite à cela, Akab s'était repenti. Mais le jugement ne sera que différé. Il sera remis à plus tard du temps. Sera sur la maison d'Akab. Et bien sûr, le jugement sur Akab, eh bien, il était aussi prévu. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la fin du roi Akab. Et dans 1 Roi, chapitre 22. Donc c'est là que je vais reprendre tout le chapitre 22. Donc c'est un texte un peu long, mais on ne pouvait pas le découper, puisque c'est toute une histoire qui a son aboutissement, et donc, mais il n'est pas plus long que d'autres qu'on a déjà vu avant. Donc 1 Roi 22, je vais le lire. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est « Le triomphe de la vérité impopulaire face aux mensonges séduisants ». Le triomphe de la vérité impopulaire face aux mensonges qui plaît, aux mensonges séduisants. 1 Roi 22. On resta 3 ans sans guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Il dit à Josaphat, « Iras-tu au combat avec moi contre Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Oui, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galaad ou dois-je m'en abstenir ?» Ils répondirent, « Monte, et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi, « Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. » Miché répondit, « L'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Miché, irons-nous au combat contre Ramoth en Galaad ou devons-nous nous en abstenir ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Verset 16, « Mais le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, mais seulement du mal. » Alors Miché dit, « Eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte en Ramoth en Galaad et qu'il tombe ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors, un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit : Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras et tu réussiras bien à le séduire. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Canaana, s'approcha, frappa Miché sur la joue et dit : Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? Miché répondit : Tu le verras bien le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit : Prends Miché et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras : Ainsi parle le roi : Mettez cet homme en prison et ne lui donnez que la portion congrue du pain de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne en paix. Miché dit : Si tu retournes vraiment en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore : Écoutez, vous tous, peuple. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa pour aller au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars : Vous n'attaquerez ni petits ni grands, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent : C'est certainement le roi d'Israël. Ils se dirigèrent vers lui pour l'attaquer. Mais Josaphat appela au secours. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char : Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, ce cri se répandit dans le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on ensevelit le roi à Samarie. Lorsqu'on nettoya le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y lavèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il a bâtie et toutes les villes qu'il a bâties, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses pères et Ahazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Aza, régna sur Juda, la quatrième année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et régna 25 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Azuba, fils de Shili. Il marcha dans toute la voie de son père Aza et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, sa vaillance dans son activité et dans ses combats, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Il balaya du pays le reste des prostituées qui subsistaient depuis le temps de son père, Aza. Il n'y avait point de roi en Édom, mais un préfet du roi. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais on n'y alla pas, parce que les navires se brisèrent à Etion-Guéber. Alors Ahazia, fils d'Akab, dit à Josaphat : Que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires. Mais Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David, son père. Son fils Yoram régna à sa place. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, un récit, n'est-ce pas ? Un récit qui montre le triomphe final de la vérité. La vérité impopulaire. Face à quoi ? Face au mensonge. Au mensonge qui est séduisant, qui plaît à beaucoup. Et la vérité que j'ai sortie de ce texte, c'est que vérité et mensonge ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas faire alliance. Vérité et mensonge ne peuvent pas cohabiter. Et c'est ce que je vous propose de voir en trois points. Mon premier point, ça sera qu'une mauvaise alliance, elle est bancale parce qu'elle est fondée sur le mensonge. Deuxième point, ça sera qu'est-ce que c'est qui attire chez les faux prophètes de mensonge ? Qu'est-ce qui fait l'attrait des faux prophètes ? Troisièmement, nous verrons qu'une bonne alliance, elle est solide parce qu'elle est fondée sur la vérité. Donc il s'agit d'alliance ici dans ce texte, hein, ça commence par une alliance. Hein. Et justement, donc, premièrement, voyons qu'une mauvaise alliance, elle est bancale parce qu'elle est fondée sur le mensonge. Elle ne tient pas. Déjà, vous vous rappelez, Akab avait fait alliance avec le roi de Syrie, Ben-Hadad. Mais ça n'a pas tenu. Le roi Ben-Hadad n'a pas tenu parole. Vous vous rappelez, il avait promis à Akab, roi d'Israël, au chapitre précédent, 20 verset 34, « Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père. » Lorsqu'ils tous les deux ont fait alliance. Ben-Hadad n'a pas tenu parole. Alliance bancale. En effet, Ben-Hadad avait gardé pour lui Ramoth en Galaad. Et là, clairement, fraterniser avec l'ennemi n'avait pas réussi à Akab. Ce n'était pas le bon plan pour lui, c'est-à-dire c'était bancal. Alors Akab, eh bien, au bout de 3 ans, il veut reprendre Ramoth en Galaad. Et Josaphat, le roi de Juda, était venu lui rendre visite et il propose à Josaphat de faire alliance avec lui pour aller combattre, pour aller reprendre Ramoth en Galaad. Et on voit ici une volonté des deux royaumes. On peut se dire, c'est bien, il y a une volonté d'unité entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Sauf que cette alliance, elle est bancale. Parce que le royaume du Nord, Israël, il est tombé dans l'idolâtrie. Et le vrai culte, il se situe dans le royaume du Sud, à Jérusalem. Donc, là encore, alliance bancale entre, à cause de l'idolâtrie, entre roi d'Israël et roi de Juda, au Sud d'Israël. Vérité et mensonge ne peuvent pas cohabiter, ni faire alliance. 2 Corinthiens 6, 16 nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?» C'est par bien les deux. Mais cette alliance n'a pas l'air de gêner Josaphat. Josaphat, le roi de Juda, ça n'a pas l'air de le gêner. Il répond à Akab en termes de soumission. En quelque sorte, il dit « Moi, je suis comme toi. » Au verset 14, regardez ce qu'il répond. Au verset 4, pardon. Josaphat répond à Akab, « Oui, moi comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il s'identifie à Akab, rien de moins. Cette alliance ne peut pas tenir. Mais il y a quand même un point positif chez Josaphat. C'est que lui, il va chercher à consulter l'Éternel. Il va demander à Akab de consulter l'Éternel. Sauf que Akab, il va convoquer 400 prophètes qui sont tous des prophètes de mensonge, des faux prophètes, des prophètes flatteurs, des faux prophètes. Ils vont tous s'accorder d'une même voix pour aller dans le sens d'Akab. Et Josaphat, lui, il n'est pas convaincu par ces 400 prophètes. Alors il demande au verset 7, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Eh bien oui, il en reste un. Il s'agit du prophète Michée. Ce n'est pas le même que celui qu'il y a dans la Bible. Hein. Le prophète Michée, le seul vrai prophète de l'Éternel face aux 400 faux prophètes. Et c'est bien pour ça que Akab le déteste, Michée. Mais il le fait quand même venir. Alors, on le presse de dire, comme des autres prophètes, que Akab peut attaquer Ramoth et que l'Éternel lui donnera la victoire. Après tout, c'est le plus grand nombre qui doit avoir raison. Mais Michée refuse. Et il va même user d'ironie. Avec une pointe d'ironie, il va dire la même chose au début que les faux prophètes. Il feint d'être d'accord avec eux. Et cette tactique, elle va faire réagir Akab. Et vivement, et c'est intéressant, la réaction que va avoir Akab. Akab recommande à Michée de ne lui dire que la vérité au nom de l'Éternel. Verset 16. C'est intéressant quand même. Josaphat et Akab, ils ont tous deux identifié les paroles des faux prophètes comme des paroles de mensonge, comme ne venant pas de l'Éternel. Même Akab, il était pas il avait besoin d'entendre la vérité. Et ça nous interpelle. Ça montre que Dieu parle au cœur, même au cœur de celui qui est très loin, qui est opposé à lui, qui est idolâtre. Dieu a parlé à Akab. Parce que lui aussi, il veut entendre la vérité. Il veut entendre la vérité. Et je crois que tout le monde veut qu'on lui dise la vérité. Personne n'aime qu'on lui dise les mensonges, même celui qui est loin de Dieu. Même Akab, même si elle est dure à entendre, cette vérité, parce qu'elle va être dure à entendre. Et Akab n'acceptera pas la vérité qui va sortir ensuite de la bouche de Michée. Michée qui va lui annoncer avec courage qu'il a vu Israël comme des brebis sans berger, à qui Dieu demande de rentrer en paix, chacun chez eux. Voilà de quoi contrecarrer les plans d'Akkad, et même de quoi le contrarier sérieusement, puisque cette affirmation de Miché n'est rien d'autre qu'une déclaration que Akkad va mourir et que Israël va se retrouver sans berger. Et que ça sera une cuisante défaite pour Israël. Akkad, malheureusement, il a entendu la vérité, mais il va refuser d'y croire. Et il y a ici une vérité, c'est que celui qui refuse la vérité, il finira par croire au mensonge. Celui qui refuse la vérité finira par croire au mensonge. Akkad accuse Miché de ne dire que du mal de lui, alors qu'en fait il a dit la vérité de la part de l'Éternel. Il n'a fait que dire la vérité. Et Akkad ne veut pas écouter, et le prophète va lui annoncer son jugement et sa fin. Miché continue la vision cette fois qui se situe au ciel, où Dieu demande, verset 20, qui séduira Akkad pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y tombe. Là, ça se passe au ciel. Et là, il y a clairement un esprit de mensonge qui se propose. Dieu a permis à un esprit de mensonge de se manifester dans la bouche de tous les prophètes d'Akkad, les 400. Alors ça nous interpelle aussi. On pourrait beaucoup réfléchir là-dessus, mais juste soyons clairs. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il le permet. Il le permet et il l'utilise à son avantage. Il l'utilise seulement à son avantage. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et cela n'enlève en rien la responsabilité de l'homme qui prête le flanc à Satan lorsqu'il refuse de croire la vérité. L'homme est responsable de ses choix. Il reste responsable de ses choix. Quelqu'un qui refuse de croire à la vérité, il va prêter le flanc à Satan. C'est exactement ce qui va se passer pour Akkad. Alors, Sédécias, un des 400 prophètes, il est démasqué comme prophète de mensonge. Et il se met en colère. Il se met en colère et il va gifler Miché. Et clairement, ce n'est pas le même esprit qui a parlé par la bouche de Sédécias que par la bouche de Miché. Miché, lui, c'est l'esprit de l'Éternel qui a parlé à travers sa bouche. Il a dit la vérité. Vérité et mensonge ne peuvent pas cohabiter. Et on voit ce que ça provoque chez Sédécias. Et chez Akkad. Akkad fera même mettre Miché en prison. Et là, clairement, comme pour le chapitre 18, vous vous rappelez le duel sur le mont Carmel, c'est pas le plus grand nombre qui a raison. C'est pas la vie du plus grand nombre qui est le meilleur. Parce que ça serait sacrifier la vérité pour plaire aux hommes. Et sacrifier la vérité pour plaire aux hommes, ça tend un piège, comme nous le montre le reste de l'histoire. En effet, Akkad va tout de même prendre la décision d'aller au combat. Et il va y aller avec Josaphat. Il va s'obstiner. Il refuse d'écouter la parole de Dieu. Il va choisir de croire. En refusant d'écouter la parole de Dieu, il va croire, mais il va croire à des mensonges, il va croire à ses prophètes de mensonges, ce qui va lui coûter la vie. Avant le combat, Akkad, on voit son caractère, il fait preuve de lâcheté. Il va se déguiser pour tenter d'éviter l'accomplissement de la prophétie de Miché. Cette prophétie de jugement, Akkad, il va user de stratagèmes. Il va se déguiser pour, soi-disant, essayer d'échapper au jugement. Et par contre, il va demander à Josaphat, « Toi, reste en habits royaux !» Mais cette ruse, elle est inutile. La ruse du déguisement, elle est inutile devant Dieu. Parce que Dieu va diriger même une flèche tirée au hasard qui va blesser Akkad, ou ça, au défaut de la cuirasse. Flèche tirée au hasard qui va atteindre son but au défaut de la cuirasse et qui va tuer Akkad, qui va le blesser d'abord pour le tuer sur son char. Accomplissement du psaume 7, versets 12 et 13. Je vous le lis. Psaume 7, 12 et 13. Si le méchant ne se convertit pas, il, donc Dieu, aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il range ses flèches brûlantes. C'est ce qui peut arriver exactement à Akkad. Et là, on vient, vous vous rappelez la prophétie d'Élie, au chapitre précédent, 21, verset 19. Ici, on a un accomplissement partiel de la prophétie d'Élie, puisque cette prophétie disait que le sang d'Akab serait léché par les chiens. C'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'on va nettoyer son char, eh bien, les chiens vont laisser lécher son sang, ce que Élie avait prophétisé précédemment. Mais cet accomplissement, il n'est que partiel. L'accomplissement total, il aura lieu sous le fils, sous le règne de du fils de Akab, c'est-à-dire Yoram. C'est l'autre fils de Akab, le frère de Ahazia. Et l'accomplissement total aura lieu sous Yoram, et il sera jeté, Yoram va être tué, et il sera jeté où ça? Dans le champ de Naboth. Et l'accomplissement de la prophétie divine se accomplira totalement à ce moment-là. Vous pouvez voir ça en 2 Rois, chapitre 9, versets 25 et 26. Alors, fin du roi Akab. On peut quand même relever la patience de Dieu à l'égard du roi. Akab aura reçu 3 avertissements prophétiques de sa mort. Quand il a épargné Ben-Hadad, chapitre 20, verset 42. Ensuite, quand il a tué Naboth, chapitre 21, verset 19, Dieu à la repentance de Akab, le jugement était plus loin. Et enfin, Akab a été averti par Michée de la défaite et de sa mort. Chapitre 17, les versets 17 à 23, pardon. Akab a cru à ses faux prophètes. Et là, on peut réfléchir, qu'est-ce que c'est qui fait l'attrait des faux prophètes? Et encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui attire chez un faux prophète de mensonge? Ça attire beaucoup de gens. Et on peut réfléchir là-dessus. Un faux prophète, c'est quoi un faux prophète? Un faux prophète, il va dire ce que Satan lui dit de dire. Ou alors il va dire ses propres pensées, prétendant que ça vient de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Ou alors un faux prophète, il va parler parce qu'il est... Il va parler par intérêt pour celui qui l'appelle. Pourquoi? Parce qu'il est payé pour cela. Il va dire uniquement ce qu'on lui dit de dire. Pour caresser le roi dans le sens du poil. Pour caresser quelqu'un pour satisfaire ses désirs égoïstes. Voilà comment se manifestent les faux prophètes. Et rechercher les faux prophètes, c'est aussi une caractéristique de notre époque. De l'apostasie des derniers temps. Ce que nous lisons lorsque Paul dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, que je vous lis, 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers le fable. » Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est arrivé à Akab, ça arrive encore aujourd'hui. Et nous devons faire attention. Donc clairement, alors, les faux prophètes... Il y a les prophètes, il y a les faux prophètes et il y a ceux qui recherchent la compagnie des faux prophètes. Ces personnes qui recherchent la compagnie des faux prophètes, comme Akab, eh bien leur caractéristique c'est quoi? Elles veulent être, je reprends l'expression, caressées dans le sens du poil. Elles veulent bien entendre, tout ira bien, prends bien soin de toi, tout ira bien. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a demandé? C'était le message que les faux prophètes voulaient faire dire à Michée. Verset 13, je vous le relis, voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde avec la leur, tu diras du bien. Non, ça c'est être faux prophète. Ce qui caractérise quelqu'un qui va consulter un faux prophète, c'est qu'elle veut être caressée dans le sens du poil et elle veut satisfaire quoi? Ses désirs égoïstes. Elle veut satisfaire ses désirs égoïstes, elles vont demander pour qui? Pour elle-même. Et pas pour la communauté. Elles vont demander pour elles-mêmes et pas pour le bien de la communauté. Vous avez remarqué, Akab, ce qu'il dit? Quand il consulte ses faux prophètes, au verset 6, quand il dit, verset 6, « Irai-je au combat contre Ramoth en Galade ou dois-je m'en abstenir ?» Il demande pour lui. Et puis, une fois qu'il est devant le prophète Michée, qui reconnaît être un vrai prophète, Akkad, il va poser la même question, mais cette fois, il va employer le « nous ». Et là, il pose la question différemment, verset 15, « Irons-nous au combat contre Ramoth en Galaad ou devons-nous nous en abstenir ?» Un vrai prophète, il va dire la parole de l'Éternel, même si ça ne plaît pas. Et il va le dire, pas pour satisfaire les désirs égoïstes de ce que quelqu'un voudrait entendre, mais il va le dire pour le bien de la communauté. Pour le bien de toute la communauté. Ça aussi, c'est une caractéristique d'un vrai prophète, qui va différencier le vrai prophète du faux prophète. Autre différence entre un vrai prophète et un faux prophète, les faux prophètes aimeraient avoir raison. Le vrai prophète, lui, il a raison. C'est Dieu qui lui a dit de dire ce qu'il dit. Au fond de nous, nous savons peut-être ce qui est vrai. Mais il y a parfois un combat, peut-être vous le vivez, on est dans un monde qui ne connaît pas Dieu, qui rejette Dieu, et même si on sait ce qui est vrai au fond de nous, on peut être attiré, je dis attiré, ça ne veut pas dire céder, hein, mais on peut être attiré par l'attrait des faux prophètes. Pourquoi ? Parce que nous voulons ressembler au monde autour de nous, parce que nous avons peur d'être rejetés. Aussi, en général, ça se produit, nous évitons ceux qui nous remettent en question. On n'aime pas ça, personne n'aime ça. Même nous chrétiens, on évite parfois soigneusement ceux qui nous remettent en question, ou alors nous les poussons à changer pour qu'ils se rangent de notre côté. Ou pire, certains persécutent ceux qui leur disent la vérité. Ça arrive aussi. Et puis, n'oublions pas que la séduction vient lorsque nous ignorons les réalités spirituelles. Il y avait un combat spirituel qui se passait au ciel. Et seul Michée l'a vu. La séduction vient lorsque nous ignorons les réalités spirituelles. Avant le combat avec les Syriens, il y avait un combat au ciel qui se passait, qui se jouait au ciel, pour désavouer le mauvais roi Akkad. Alors parfois, on peut user de dissimulation comme Akkad qui s'est déguisé pour pensant échapper au jugement, mais en vain, complètement en vain. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. On ne peut bien sûr rien lui cacher. C'est une méconnaissance de Dieu, n'est-ce pas, qui a fait Akkad réagir comme ça. Il ne connaissait pas Dieu, il pensait qu'on pouvait le tromper. Alors, aujourd'hui, discerner la vérité du mensonge, ça devient très difficile. À l'époque de l'intelligence artificielle, qui peut manipuler la vérité, le son, l'image, peut prendre la voix de quelqu'un d'autre, dans ce temps des réseaux sociaux, pour discerner la vérité, où est-ce qu'elle est, ça devient difficile. Difficile, mais c'est quand même possible. Comment ? En faisant alliance avec la bonne personne, pour rester dans la vérité. En faisant alliance avec, et ce sera mon troisième point, une bonne alliance, elle est solide parce qu'elle est fondée sur la vérité. La vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Vous vous rappelez ? C'est la question qu'avait posée Ponce Pilate à Jésus. Qu'est-ce que la vérité ? Jean 18, verset 38. La vérité, Jean 17, verset 17, Jésus dit, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, elle est la vérité, on peut s'y fier. Et bien sûr, Jésus, il est la vérité, c'est pas qu'il a la vérité, il est la vérité incarnée. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Michée a été frappé pour avoir dit la vérité, verset 24, il a été mis en prison, verset 27. Ça coûte de dire la vérité. Eh bien, Jésus, qui est la vérité incarnée, lui aussi sera giflé par le grand prêtre. Et pire que Michée, lui, va être crucifié. La vérité a été crucifiée. Mais Jésus est ressuscité. Et par sa résurrection, la vérité a triomphé du mensonge. Et elle triomphera parce que la vérité finit toujours par triompher et confondre les menteurs. Parce que Jésus est ressuscité. Et refuser de croire en Jésus, c'est refuser la vérité. Et c'est s'exposer à croire au mensonge. Je relis 2 Timothée 4, verset 4. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors Jésus nous invite à faire alliance avec qui ? Avec lui. Lui qui est la vérité. En nous repentant de nos péchés et en croyant à son sacrifice sur la croix pour nous les pardonner et devenir, pour que nous puissions devenir ses enfants. Et en croyant en sa résurrection. C'est une telle alliance que Jésus nous propose à chacun. Et nous, son Église, nous l'avons déjà, n'est-ce pas, accepté. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté, Jésus les invite à faire alliance avec eux, en se tournant vers lui, dans la repentance et dans la foi. Josaphat, c'est intéressant de se pencher sur Josaphat, qu'on s'arrête un peu sur lui, Josaphat. L'histoire de Josaphat, elle est là pour nous avertir contre des alliances bancales, nous avertir et aussi pour les éviter. Et pour aussi apprendre à dire non, quand il faut dire non, pour nous éviter bien des tourments, bien des soucis. Des alliances bancales, ça peut être des alliances politiques. Ça peut être aussi, lorsque un chrétien va se marier avec quelqu'un qui ne confesse pas sa foi. Alors bien sûr, il peut le faire, mais il y a des avertissements dans la Bible pour éviter bien des souffrances par la suite. Il y a des cas où, dans sa grâce, Dieu a fait que la personne non-croyante s'est convertie, mais on ne se moque pas de Dieu. Et parfois, c'est au prix de souffrances qu'il est possible d'éviter. Donc attention aux alliances bancales. Josaphat, il n'a pas su dire non. Mais au fond, ce n'était pas un mauvais roi. Je vais y revenir. Josaphat, contrairement au méchant roi Akab, lui, il va juste être blessé. Et vous avez remarqué, il aura la vie sauve. Uniquement par la grâce de Dieu. Uniquement par la grâce de Dieu. Vous avez remarqué, dès le début, Josaphat, il a caressé Akab. Il a aussi caressé Akab dans le sens du poil. Moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Josaphat, il a été faible pour ne pas s'opposer dès le départ à Akab. Et c'est plus facile de dire non au début que de se laisser entraîner, de rentrer dans un engrenage, et après c'est beaucoup plus difficile de dire non. Ça va être effectivement le début d'un engrenage pour Akab dont il se serait bien passé, mais il aura quand même la vie sauve. Il sera blessé, hein. Il sera blessé. Et vous avez remarqué aussi, ça m'a fait réfléchir, il aura du courage, Josaphat. Il va avoir du courage pour faire la guerre aux Syriens. Il en faut du courage pour aller au front. Mais alors, le vrai courage, il est où ? Il est de faire la guerre avec des armes. Il en faut. Mais est-ce que le vrai courage, il n'est pas plutôt de savoir dire non au mal ? De savoir dire non au mal ? Et d'éviter certaines fréquentations quand on sait qu'elles risquent de nous faire tomber. Il vaut mieux dire non au début. Si quelqu'un t'entraîne à faire dans une voiture ou à tes enfants un rodéo urbain, il est encore temps de dire non, parce qu'après, une fois dans la voiture, c'est beaucoup plus dur. Psaume verset 1, chapitre 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Alors Josaphat, oui, il a été faible. Il n'a pas voulu décevoir Akab. Il était venu le visiter en ami. Et ça a bien failli lui coûter la vie. D'autant plus que Josaphat aussi s'est obstiné. Il s'est obstiné dans son alliance avec Akab. Pourquoi ? Mais parce qu'il est allé avec Akab au combat. Et n'oublions pas, les deux rois siégeaient lorsque Michée est arrivé et qu'il a annoncé la prophétie de la défaite d'Israël. Josaphat avait entendu tout cela. Lui aussi avait été prévenu, mais il a accompagné Akab dans ce combat. Il aurait pu revenir, il était encore temps de revenir, ce qui lui aurait évité une blessure. Attention donc aux mauvaises alliances. Mais, et le texte le dit dans l'ensemble, Josaphat, le fils d'Azar, il a été roi de Juda pendant 25 ans, dans l'ensemble, il a été un bon roi. Il a été un bon roi, effectivement, il a fait preuve de faiblesse, il n'a pas su dire non, c'était ça sa femme. Et est-ce que parfois on n'est pas comme ça aussi? Alors qu'on ne risque pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas pris position. Josaphat, dans l'ensemble, fut un bon roi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, verset 43. Il a été comme son père Asa, qui était aussi un bon roi dans l'ensemble. Il a été un bon roi malgré sa mauvaise alliance avec Akab. Il fut en paix avec Akab, verset 45. Josaphat, il a combattu l'idolâtrie comme son père. Mais il ne l'a pas éradiqué totalement, puisque les hauts lieux ne disparaissent pas, verset 44. Et la fin du récit est très instructive pour nous aussi. Il avait armé une flotte pour aller chercher de l'or à Ophir, tout en s'alliant avec Ahazia au début. Ahazia était donc le fils d'Akab. Mais la main de Dieu l'arrête. Les navires ont été détruits. Pourquoi la main de Dieu a-t-elle arrêté Josaphat, allié avec Ahazia? Eh bien, nous avons la réponse en deux chroniques très claires. Deux chroniques 20, verset 37, que je vous lis. Deux chroniques 20, 37. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Maresha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Ahazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis, parce que Dieu n'approuvait pas son alliance avec Ahazia. Voilà pourquoi les navires ont été brisés. Alors, face à cela, est-ce que Josaphat va encore s'obstiner par orgueil? Non. Josaphat, il a compris la leçon. Il refuse l'aide du roi d'Israël, de Ahazia, fils d'Akab. Josaphat a enfin appris à dire non. Il a appris de son expérience douloureuse avec Akab, qui a failli lui coûter la vie. Alors, pour terminer, on peut se poser la question, pour nous, comment est-ce que vous réagissez, comment réagissons-nous lorsque quelque chose ou quelqu'un vient contrecarrer vos plans? Vous aviez bien mis au point un plan, je ne sais pas quels sont vos objectifs pour 2026, mais comment est-ce qu'on réagit quand ça ne va pas comme on veut? Une porte se ferme devant un projet qui nous tient à cœur. Ça peut être à cause de la maladie, ça peut être à cause du manque d'argent, ça peut être un échec à un examen. Alors nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Pas toujours facile, n'est-ce pas? Une chose est claire, d'après ce récit, si on n'écoute pas la parole de Dieu, eh bien ça peut occasionner des épreuves pénibles, des blessures. Mais comme Josaphat, acceptons-les comme une manifestation de la grâce divine pour nous éviter quelque chose de pire. Au lieu de s'irriter, au lieu de s'obstiner par orgueil pour avoir à tout prix le dernier mot. Là, ce sont les navires qui se sont brisés, mais un esprit brisé a plus de valeur qu'un navire brisé. Ce que je vous lis en psaume 51, verset 17, ce que disait le roi David, psaume 51, verset 17, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le déteignes pas. » Alors oui, ce n'est pas toujours facile dans nos décisions. Il nous faut prier pour avoir du discernement, pour que Dieu nous donne la conviction intérieure par le Saint-Esprit d'aller ou pas dans telle ou telle direction. Priez, première chose. Et puis aussi, ne nous prenons pas les frères et sœurs, l'Église. Quelle bénédiction l'Église! On peut demander conseil à un frère ou à une sœur de l'Église. Parce que l'Église, elle est l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15, si vous cherchez la vérité. Et puis surtout, si nous avons un projet, demandons-nous si mon projet, il est conforme ou pas à la parole de Dieu? Est-ce que ce projet ne se fait pas au prix d'une alliance douteuse ou mensongère? Ce texte est là pour nous garder, pour nous prémunir de mauvais choix. En résumé, on pourrait résumer ainsi, lorsqu'on a un choix à faire, eh bien, demeurons en Jésus, dans notre alliance de grâce et de vérité avec lui. Israël n'avait plus de berger à la mort d'Akab, le mauvais roi. Nous, nous avons le bon berger, Jésus. Demeurons en Jésus dans notre alliance de grâce et de vérité avec lui, le bon berger. Et je termine par 3 versets pour nous garder justement et pour nous donner la bonne attitude face, parce que on a des réprimandes. Ouais. Proverbe 27, verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Ecclésiaste 7, verset 5. Mieux vaut écouter le reproche du sage qu'être homme à écouter la chanson des insensés. Et puis Psaume 118, verset 8. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Amen. Je vais prier. Éternel, je te remercie parce que tu nous laisses ta parole qui est là pour nous prémunir contre bien des douleurs, Seigneur, si nous y prêtons garde, Seigneur. Merci encore, Père, pour ces récits qui nous invitent à faire attention aux mauvaises alliances. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous as laissé ces avertissements. Et Seigneur, même si parfois nous avons fait de mauvais choix par le passé, merci parce que ta grâce, Seigneur, elle restaure, elle est toujours là, Seigneur, par Jésus ton Fils. Et Seigneur, que nous apprenions de nos erreurs, Seigneur, que nous sachions aussi entendre, reconnaître et entendre des réprimandes qui viennent de toi. Parce que tu nous aimes, tu es le meilleur Père qui soit. Et un Père reprend parfois ses enfants. Que nous sachions, Seigneur, t'écouter. Et Seigneur, lorsque tu nous reprends. Merci Père encore et que tu nous préserves Seigneur pour cette année à venir des mauvais choix, que nous pesions chaque décision à la lumière de ta parole et Seigneur merci de ta promesse d'être tous les jours avec nous. Nous te prions Seigneur pour que tu nous bénisses, que tu nous guides dans cette nouvelle année, dans ta volonté. Tu connais tous nos lendemains Seigneur, tu connais toutes nos décisions. Nous, parfois, nous hésitons et tu nous demandes de nous mettre devant toi. Alors, Père, que nos choix de cette année t'honorent, nous édifient les uns les autres. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.